La parole de Dieu d'aujourd'hui se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 1 à 7. L'Apocalypse 2, verset 1 à 7. Lisons à tour de rôle. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles en sa main droite. Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu t'es pas lassé. Mais c'est contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je garderai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaites, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Prions pour que le Saint-Esprit agisse en nous. Prions pour que nous puissions écouter la parole de vie que le Saint-Esprit dit aux églises. Et prions pour l'évêque d'honneur pour que Dieu oigne ses lèvres et lui donne la sagesse, la connaissance et la puissance de la parole. Dieu le Père, merci de nous avoir sanctifiés, merci de nous avoir commandé de comprendre ta parole. Ou en les lèvres de ton serviteur pour qu'il puisse prêcher la vérité. Je prie au nom de Jésus. L'Église qui entend la parole du Saint-Esprit, non pas la parole d'homme, l'Église qui entend la parole du Saint-Esprit, lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu est Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment la Trinité. Lorsque le Père détermina sa volonté par la justice, le Fils l'avait manifesté par la parole et le Saint-Esprit transmet cette parole comme la vérité à l'Église. L'Église de Jésus doit donc entendre ce que le Saint-Esprit dit pour vivre, entendre la parole de la vérité de ses oreilles, c'est accueillir le Saint-Esprit dans son âme. L'Esprit étant celui qui procède du Père, et ainsi celui qui accueille la parole de Dieu à la plénitude du Saint-Esprit, sinon il n'entend que les paroles d'hommes qui ne sont pas la parole du Saint-Esprit. À moins d'entendre la parole du Saint-Esprit, on ne peut devenir spirituel et on finit par abandonner son premier amour démarré par le Saint-Esprit. Il y a un chant délié dans l'église où se trouve le premier amour qu'on appelle le temple. Il faut toujours allumer le chandelier dans le temple. C'est le travail du prêtre sacrificateur. Et ce prêtre sacrificateur désigne les saints. Ne priez pas seulement pour la plénitude du Saint-Esprit, mais croyez en la parole de Dieu comme la vérité. Accueillez-la. C'est la vérité fournit la plénitude de l'inspiration. Lorsqu'on entend ce que le Saint-Esprit dit à l'Église, on devient une Église remplie du Saint-Esprit. C'est la chute si on entend la parole de l'Esprit, mais on n'obéit pas. Notre Église connaît la vérité. Elle connaît le tableau de la volonté de Dieu et y croit. C'est une Église qui triomphe du monde par la parole du Saint-Esprit. Dieu est Esprit. Nous avons entendu parler beaucoup de cette parole à nombreuses reprises. L'esprit n'est pas matériel et il n'est pas tangible. L'esprit n'a pas de forme et il n'est pas matériel. C'est la raison pour laquelle personne ne peut voir l'âme avec ses yeux physiques. Même avant que les cieux existent, même avant que le monde spirituel soit créé, il était seul. Il n'avait pas besoin de dépendre des cieux pour pouvoir exister. Il était seul, il existait par lui-même. Notre Dieu le Père est le Dieu de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Il est saint. Mais lorsque nous parlons de Dieu le Père, nous pensons d'abord du Père. Il faut que nous soyons en plus intelligents que maintenant. Je vous ai dit à nombreuses reprises. Le Père représente une place de la Trinité. Le Fils aussi. Et quant au Saint-Esprit, il aussi représente une position parmi la Trinité. Alors ces trois sont un et il est ainsi le Dieu de la Trinité. Mais Père, personne ne peut le voir. Mais il s'est montré à nous. À travers Jésus-Christ, Jésus-Christ est l'être de Dieu le Père, il est l'image de l'être de Dieu le Père. Il faut que nous connaissions Dieu et ensuite nous croyons en lui. Qu'est-ce que c'est connaître? C'est faire une expérience, faire l'expérience de manière complète. Personne n'a vu Dieu le Père. Lorsque l'un des disciples de Jésus, Thomas, lui a dit, « Montre-toi à nous », Jésus lui a dit, « Mais tu as déjà vu le Père en me voyant. Alors pourquoi tu me demandes ceci ?» Alors, déjà, Dieu le Père a une image, et selon la ressemblance de cette image, les hommes ont été créés. Donc, l'homme a été créé selon la ressemblance à l'image de Dieu, c'est ce qui est dit dans la Bible. Donc, lorsque nous voyons des hommes, nous pouvons nous rendre compte du fait que Dieu le Père qui nous a créé a une image et cette image nous a été envoyée. Lorsque nous parlons de la volonté, cette volonté est appelée en caractère chinois « oui ». Alors, lorsqu'on utilise le mot « oui », nous parlons en même temps de la justification aussi, parce que ce mot est utilisé également dans le mot « justification » en coréen. Et alors, c'est Dieu qui a établi une justice. Et cette justice et l'équité de Dieu. Si nous vivons selon la volonté de Dieu, nous pouvons être justifiés, nous pouvons aussi, donc ainsi être considérés comme justes. Mais si nous ne vivons pas selon la volonté de Dieu, nous n'avons pas de justice. À ce moment-là, nous sommes injustes. Qu'est-ce que c'est être sauvé? Et qu'est-ce que c'est obtenir la vie éternelle? C'est le juste qui est sauvé et c'est le juste qui peut obtenir la vie éternelle. Pour être justifié, il faut faire la volonté de Dieu. Seuls ceux qui ont obtenu la justification selon la volonté de Dieu peuvent être considérés comme justes et ce sont eux qui peuvent être menés à la vie éternelle. Quant au Saint-Esprit, le Saint-Esprit, alors, c'est la volonté de Dieu qui est la justice de Dieu. Et cette justice a été manifesté dans le monde. C'est le Fils qui l'a fait. Alors, il s'est manifesté à nous et en nous montrant la justice de Dieu. Alors, nous avons ainsi vu la justice, la volonté de Dieu à travers Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Voilà, c'est ainsi que nous avons vu Dieu le Père en voyant Dieu le Fils de Dieu. Et le Saint-Esprit, quant à lui, Il témoigne de la justice de Dieu. Il la prêche et l'annonce dans le monde entier. Alors, si nous croyons en Jésus, c'est nous-mêmes qui pouvons être sauvés. Mais si le Saint-Esprit agit en nous, nous pouvons distribuer le salut obtenu aux autres. Alors, à travers vous, Jésus-Christ est annoncé et par la foi que vous possédez, les autres sont sauvés. C'est ça la question. Alors, à travers le Fils de Dieu, la justice de Dieu se manifeste et par le Saint-Esprit seulement, la justice de Dieu est prêchée. C'est ce qu'on appelle la vérité. Il ne faut pas la mépriser, ce fait. Et dans la famille aussi, il y a le père, le grand-père et il y a le petit-fils. Et c'est ainsi qu'il y a une hiérarchie au sein de la famille. Alors, il faut que nous comprenions parfaitement l'ordre établi par Dieu le Père. Lorsqu'on parle de Dieu, on pense d'abord au Père. Dieu le Père est existé de par lui-même depuis l'éternité. Il est le Créateur. Lors de la création, le Fils était dans le Père et le Saint-Esprit a agi aussi en lui. Lorsque nous prions, nous parlons à Dieu le Père, c'est ainsi que nous prions à Dieu qui est le Père. Et lorsque nous parlons de Dieu, nous pensons à qui alors? Si nous croyons en Jésus, alors nous pensons à Dieu. Les païens disent que le Dieu n'existe pas, mais les chrétiens ont imaginé un Dieu. Alors ce Dieu se trouve dans nos pensées. C'est pourquoi Dieu est une existence conceptuelle, c'est ce que disent les païens. Alors vous croyez en Dieu, alors ce Dieu se trouve dans vos pensées. Mais moi, je ne connais pas ce Dieu conceptuel. Alors je ne peux pas vous comprendre vos raisonnements, et c'est ce que disent les païens. Mais Dieu, le Père, a montré l'image de son être au monde. Jean chapitre 1, verset 18, personne n'a vu Dieu le Père. Abraham a vu le Père et Moïse a vu Dieu le Père, c'est ce que les gens disent. Mais le Dieu qu'Abraham a vu était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'était le Dieu d'Israël. À l'époque, l'Israël comptait seulement 1 million de personnes. Et alors Dieu le Père s'est manifesté à eux. Alors Abraham et Moïse l'ont vu. Mais ils ont vu directement Dieu le Père. La réponse est non. Il est déjà dans l'Exode chapitre 3. Ils ont vu un ange. Ils ont vu un messager de Dieu. Envoyé par Dieu le Père. Il a été donc envoyé à Dieu le Père et il a manifesté le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu en qui nous croyons, ce n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que les Israélites ont vu. Il est dit dans Matthieu, Jésus a dit, Jésus m'a donné l'autorité céleste et terrestre, alors allez dans le monde entier pour prêcher cet évangile. Alors ce Dieu a été ressuscité et il est monté dans les cieux. Et il s'est mis à droite de Dieu. Et de là, il a obtenu toute autorité. Alors, qu'est-ce que la loi? La loi a été transmise par la main des anges aux Israélites. Alors, la loi est confiée seulement jusqu'à ce que le Fils de Dieu vienne, il est dit dans Galates. Le Dieu d'Abraham et de Jacob et d'Isaac, c'est-à-dire l'Éternel, et a joué le rôle de Dieu seulement jusqu'à ce que le Jésus-Christ vienne dans le monde. Alors le Fils de Dieu qui a été ressuscité s'est mis à droite de Dieu. À partir de ce moment-là, l'ambition de l'Éternel s'est terminée et Jésus-Christ qui est venu dans le monde, qui l'a quitté après sa mort, après sa résurrection, est Dieu pour nous. Lorsqu'on parle de Dieu, alors, lorsqu'on parle de Dieu le Père, il existe par lui-même depuis l'éternité, mais personne ne peut le voir. Mais l'image de l'être de Dieu s'est montrée à nous parce qu'il a été envoyé par Dieu le Père dans le monde. C'est le Dieu en qui nous croyons. Cela signifie que c'est Jésus qui est notre Dieu. Quelle était la confession des disciples de Jésus? Il dit dans Jean chapitre 20, « Est-ce que tu es vraiment Dieu ?» Il dit aussi dans Jean 1, 18, « Le Fils unique qui est sorti du sein de Dieu le Père s'est manifesté aux hommes. » Nous croyons donc que c'est Jésus qui est Dieu. Depuis la création, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes. Je pense que le nombre d'hommes est plus nombreux que le nombre des étoiles. Mais il y a beaucoup de dieux aussi, mais seul Jésus-Christ qui est venu dans le monde il y a environ 2000 ans et qui a séjourné dans ce monde pendant 33 ans, c'est lui qui est notre Dieu. Nous pensons de manière individuelle à notre Dieu, nous pouvons l'imaginer, mais le Dieu que nous croyons, c'est qui? C'est Jésus-Christ qui est mort et qui a été ressuscité et qui s'est mis à la droite de Dieu après sa résurrection. Il a été crucifié, il a été ressuscité, il a été enlevé dans les cieux, il s'est mis à la droite de Dieu. C'est celui-là que nous croyons. Notre foi n'est pas conceptuelle ni subjective. Notre Dieu doit être identique. Et alors tout le monde doit connaître ce Dieu. La Bible est composée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Mais il y a la différence d'inspiration entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il est dit dans Galates chapitre 3, la loi, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Est constitué de la loi et des prophéties. La loi a été transmise aux Israélites à travers des anges, tandis que le Nouveau Testament, l'Évangile, la vérité, nous a été transmise seulement par le Saint-Esprit. Alors, Jésus a dit, je vous dis la réalité, il est utile que je vous quitte. Si je quitte, si j'entre dans les cieux, je vais demander à Dieu le Père pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Jean chapitre 16, verset 7. Je vais demander au Père de vous envoyer le Saint-Esprit et je vais l'enverrer. Je vais l'envoyer donc. Il ne faut donc pas mépriser Jésus pour recevoir le Saint-Esprit. Jésus est mort, il a été ressuscité, il s'est mis à droite de Dieu et ensuite de là, il a demandé au Père de nous envoyer le Saint-Esprit. Jean chapitre 7, verset 37. Avant que je sois glorifié, le Saint-Esprit n'est pas venu. Personne n'a reçu le Saint-Esprit avant que je sois glorifié, mais celui qui croit en moi pourra voir les fleuves de vie couler de son sein. Il s'agit du Saint-Esprit. Alors le Dieu en qui nous croyons, Il est monté dans les cieux, il s'est mis à la droite de Dieu, et de là, il a demandé au Père de nous envoyer le Saint-Esprit. Alors enfin, le Saint-Esprit est entré en nous, et alors le Saint-Esprit demeure en nous. Le Saint-Esprit, ne vient pas à n'importe quelle personne. Il faut que nous soyons sanctifiés pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Il faut se remettre au sang Jésus. Alors, ensuite, nous avons reçu le baptême. Quelle est la différence entre les croyants et les païens? Au niveau de l'apparence, il n'y a pas de différence entre les deux. Je pense que les païens vivent de manière plus honnête, plus exemplaire, plus intelligente que les chrétiens. Ils sont irréprochables, je pense. Alors, si vous vous présentez à l'audition menée par l'Assemblée nationale, vous pouvez être accusé plus facilement. Mais parmi les païens, il y a beaucoup, beaucoup plus de personnes qui sont honnêtes et pures. Alors, leur niveau de morale et d'éthique est plus élevé que nous, je pense. Mais quelle est la vraie différence entre les païens et les chrétiens? Nous sommes allés au-devant de Jésus-Christ, ensuite nous avons reçu le baptême. Ce baptême est différent du baptême de Jean-Baptiste. Au niveau de l'apparence, c'est identique, parce qu'on entre dans l'eau pour se faire baptiser. Alors, donc, il n'y a pas de différence extérieure. Mais Jean-Baptiste a donné le baptême avec l'eau, mais Jésus a baptisé par le Saint-Esprit, dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, 3. Par le Saint-Esprit, on se fait baptiser. Mais le baptême de Jean ne s'était pas par le Saint-Esprit. Alors, il a été pratiqué avec l'eau, mais nous avons reçu le baptême par le Saint-Esprit. Voilà la différence entre ceux qui étaient sous la loi, c'est-à-dire les Israélites, et les chrétiens d'aujourd'hui. Par le Saint-Esprit, on se fait baptiser. Alors, seul celui qui reçoit le Saint-Esprit, qui est fait baptiser par le Saint-Esprit, peut le recevoir au moyen de la foi. C'est pourquoi nous avons ainsi reçu le Saint-Esprit. Si nous ne croyons pas en Jésus, au niveau de l'apparence, même si les païens ont l'air exemplaire, ils n'ont pas chrétien, ils n'ont pas croyant. Mais nous sommes croyants, nous avons été baptisés et par le Saint-Esprit, nous avons été régénérés. C'est la raison pour laquelle celui naître de nouveau par le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? C'est naître d'en haut et c'est naître par l'Esprit. Donc on est ainsi né d'en haut, alors notre statut est différent de celui des païens. Mais vous ne comprenez pas bien l'importance de votre statut et vous le méprisez. Mais il faut que nous soyons bien conscients de la différence du statut entre nous et les païens. Par exemple, vous avez des enfants, mais les autres enfants sont aussi mignons. Ils sont agréables, mais il y a une différence entre vos propres enfants et les autres. Il faut que nous reconnaissions donc la différence de statut entre les païens et les chrétiens. Lors des concours qu'on passe pour devenir pasteur, il faut qu'on confesse notre foi. Parce qu'il est très important de faire un diagnostic concernant la foi. La Bible dit, vous êtes le temple de Dieu, si nous le méprisons, si nous le salissons, nous serons détruits par Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17. Il faut que nous comprenions donc l'importance de notre statut, sinon on peut que périr. Alors Jésus a été tué, il a été persécuté, mais il n'a pas renié le fait qu'il était le Fils de Dieu. C'est pourquoi nous devons aussi agir de la même manière face à de nombreuses épreuves, à de nombreuses persécutions. Il ne faut pas que notre statut soit méprisé et renié par nous-mêmes, même si le monde méprise, même si le monde ne reconnaît pas notre statut, il faut que nous le reconnaissions, il faut que nous le comprenions. Il y a beaucoup de personnes qui sont exemplaires et nobles, mais il est dit dans Philippiens chapitre 3, verset 8, « Alors moi, j'abandonne tout ce qui est utile à la chair. » C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Lui, il était un grand savant, il a eu une personnalité exemplaire, il était un pharisien. C'est pourquoi au niveau de l'apparence, il était parfait et approchable. Alors, il était impossible qu'il soit méprisé parce que son statut était très élevé, alors, son niveau d'intelligence était très élevé, et il était vraiment noble. Mais l'apôtre Paul a dit, « Moi, j'abandonne tout ce qui est utile à la chair, l'honneur, le niveau intellectuel et tout ceci, moi, je les abandonne, mais seulement par Jésus-Christ. Alors mon âme a été sauvée et mon âme sera ressuscitée. Alors mon âme vise seulement la résurrection, voilà, c'est la résurrection qui est mon objectif. » Vous avez beaucoup, beaucoup de choses qui sont utiles à votre chair. Et alors, vous venez à l'église avec les choses charnelles. Alors, ces choses charnelles vous permettent d'être orgueilleux. Et alors, vous critiquez en se vantant votre chair. Parfois, certains membres de l'église m'amènent ceux qui sont... ceux qui possèdent beaucoup d'honneur dans le monde et il me demande de prier pour lui, mais en fait il n'est pas prioritaire de le bénir. Ce qui est prioritaire, c'est de croire en Jésus. La Bible dit repentez-vous, alors fils de Biffer, repentez-vous. À ce moment, le problème des cieux est proche. La repentance. Alors, il faut que nous tous comprenions de manière correcte ce qu'est la repentance. Nous avons un désir charnel, alors nous aspirons à l'honneur, nous avons de l'argent. Tout ceci, alors tout ce qui est utile à notre chair doit être abandonné comme des déchets à travers le baptême. Le désir charnel, la chair, le passé, le péché, la faute, tout ceci doit être enterré lors du baptême. Ensuite, il faut qu'on remonte de l'eau pour pouvoir appartenir à Jésus-Christ. Et à partir de ce moment-là, on peut recevoir le Saint-Esprit. Ensuite, notre statut a été changé. Donc, il y a une grande différence qui est radicale entre nous d'aujourd'hui et nous du passé. Lorsque j'ai cru en Jésus au début des années 60, j'ai insisté beaucoup sur l'importance du baptême. Mais aujourd'hui, et on ne parle pas beaucoup du baptême, parce que si on parle trop du baptême, on quitte l'Église, parce qu'on ne veut pas entendre parler de la repentance. Lorsqu'on effectue des visites pastorales, et nous demandons d'abord de se repentir. Parce que les membres de l'Église que nous visitons, eux, en fait, ils sont pauvres, et ils vivent dans une maison louée. Et ils doivent travailler beaucoup pour gagner de l'argent. Alors, qu'est-ce que je peux leur donner? Il faut qu'on possède la clé pour pouvoir ouvrir la porte. Il faut qu'on se repente d'abord. C'est ce qui importe le plus. Toujours, il faut tout mener le mouvement de repentance. À ce moment-là, les églises croissent. C'est la tradition. Mais à partir de, je ne sais pas quand, mais et on ne peut pas entendre parler de la repentance. Avant qu'on croie en Jésus, nous avions une personnalité et nous avions une culture. Nous avions des conditions, conditions favorables. Nous avions de l'honneur, de l'argent, etc., etc. Et on voudrait être reconnu au sein de l'Église avec tout ceci. Mais il faut qu'on sache abandonner tout ce qu'on avait avant de venir à l'Église à travers le baptême. Il faut enterrer tout ceci. Il faut tout enterrer. Il faut abandonner tout ceci pour pouvoir recommencer par le Saint-Esprit parce que nous avons un nouveau statut. Mais le problème, c'est que nous voulons nous vanter tout ce que nous avons possédé dans le passé, en dehors de l'Église, parce que toutes ces choses nous ont permis d'être félicités, d'être reconnus, appréciés par les autres dans le monde. Mais il ne faut pas le faire. Mais même au sein de l'Église, nous le reconnaissons parce que pour qu'ils ne quittent pas l'Église. Mais si on garde cette attitude, on ne peut pas se développer, on ne peut pas progresser. Même si vous manquez d'intelligence, même si vous n'êtes pas bien reconnu dans la société, même si vous ne réussissez pas dans le monde, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, alors si vous recevez la grâce, alors vous êtes transformé radicalement et vous commencez à évangéliser. Mais par contre, ceux qui étaient riches, ceux qui avaient de l'honneur, et alors s'ils se transforment et ils obtiennent un nouveau statut, mais ils ne l'évangélisent pas. À ce moment-là, comment Dieu pourra les utiliser, mais faire en sorte que Dieu puisse nous utiliser, nos familles. Donc, il ne faut pas que nous entrions à l'Église avec les choses terrestres. Parce que si nous le faisons, notre propre vertu devient la justice, un critère. Et ensuite, on fait la comparaison entre nous et les autres. Alors, c'est nous-mêmes qui devient le miroir. Et ce miroir nous permet de juger les autres. Et alors, on commence à critiquer même les pasteurs, les anciens. Et parce que notre propre statut, notre propre vertu devient un critère de jugement. Nous avons été appelés par Dieu le Père. Alors, les 12 disciples de Jésus ont été appelés par Jésus, mais l'un des 12, Judas Iscariot, a trahi Jésus. Et au niveau philosophique, il était intelligent. Et après la résurrection de Jésus, après son ascension, sept diacres ont été choisis par Dieu. Alors parmi ces sept, il y a eu Nicolas qui est venu de notre région, Nicolas Judée. Mais il a été reconnu comme personne ayant beaucoup de vertus. Il a été reconnu comme quelqu'un d'intelligent. Mais parmi les sept diacres, alors les six sont morts martyrs. Ils ont été tous mentionnés dans l'Église, mais le septième, Nicolas, lui, il n'a pas été mentionné dans la Bible parce qu'il a été haï du Saint-Esprit. L'apôtre Paul l'a maudit, il l'a reproché sévèrement, c'est ce qu'on a vu dans la Bible. C'est pourquoi, alors certains disent, alors, Nicolas, qui figurait parmi les sept diacres et Nicolas, mentionnés dans l'Apocalypse, sont différents, mais je pense qu'ils sont identiques. Et alors, il est devenu aussi un diacre consacré. Mais il a été reproché par l'apôtre Paul. Et il est dit dans l'Apocalypse chapitre 2, il a reçu l'avertissement du Saint-Esprit. Parce que lui, en fait, il dépendait trop de ses propres vertus. C'est pourquoi il a été mécontent des autres. Mais il ne faut pas que notre propre mérite, notre propre vertu devienne la justice pour nous. Pour nous, il n'y a qu'une seule justice, qui est la seule de Dieu, qui est celle de Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est Jésus qui est notre justice. Alors, par le Saint-Esprit, et en le servant, nous avons obtenu la justification. C'est ainsi qu'on avait servi Jésus. Il est dit dans Hébreux chapitre 6, et on participe au Saint-Esprit, et on parle du Saint-Esprit, on a goûté à des dons du Saint-Esprit, mais on se corrompt à mi-chemin parce qu'on a trop dépendu de notre propre mérite, de notre propre justice. C'est pourquoi avec cette justice, on critique les pasteurs, les anciens, on critique les autres. Alors là, Nicolas représente les personnes qui se multiplient au sein de l'Église et qui forment des partis. Et alors, ils manifestent leur mécontentement contre le pasteur, contre l'Église, contre les autres. Mais jusqu'à ce que... jusqu'à ce qu'une grande église soit formée et jusqu'à ce qu'un pasteur puisse sortir, et on souffre beaucoup. Alors moi, ma femme est plus âgée que moi, mais elle est plus 5 mois, alors elle est très en bonne santé, mais moi je ne suis pas très en bonne santé parce que j'ai beaucoup souffert mentalement. Alors je ne peux pas tout expliquer à vous en la matière, mais j'ai beaucoup souffert. Mais moi, je ne me suis jamais vanté de ma propre justice. Moi, je reconnais mes faiblesses, mais c'est pourquoi je suis soutenu par le Saint-Esprit. Parce que j'ai obtenu la connaissance venant du Saint-Esprit. Je suis toujours aidé par le Saint-Esprit. Et via le Saint-Esprit, je mets le pastorat. Les Actes chapitre 1, Jésus a parlé par le Saint-Esprit, il a agi par le Saint-Esprit et il a enseigné par le Saint-Esprit. Alors Jésus veut que nous agissions de même. Moi, au niveau de la vertu, je n'ai aucune vertu, alors je n'ai pas de valeur de ce point de vue. Mais même les nouveaux venus peuvent avoir beaucoup de vertus, alors ils sont donc ils sont meilleurs que moi. Bon, moi, je n'ai pas beaucoup de vertus et par rapport à vous. Alors un jour, j'ai manifesté ma colère. Alors, moi aussi, je peux le faire, n'est-ce pas? Mais lorsque j'ai exprimé ma colère, j'ai été vivement critiqué par des membres de l'Église. Alors à partir de ce moment-là, j'ai beaucoup patienté pour ne pas exprimer ma colère, mais c'est très difficile. Alors moi, en fait, je ne veux pas vanter de ma propre justice. Et je n'ai pas de propre justice de ma part. Alors, je suis très faible de ce point de vue, mais je suis vraiment rempli de la justice venant de Jésus. Alors, c'est ce que j'enseigne. Et alors, à travers cette justice, je mène le pastorat. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Alors verset 6, « Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. » C'est la parole du Saint-Esprit. « Moi, j'ai de la haine pour lui aussi. » Alors, l'église d'Éphèse était l'une des 7 églises. de l'Apocalypse. Alors, je les ai visités. L'église d'Éphèse est vraiment grande. La ville d'Éphèse est très grande. Beaucoup de nobles y vivaient. Et alors, ils voulaient se vanter de leur dignité et ils voulaient montrer leur dignité aux autres. Alors, dans cette région, l'apôtre Paul a mené un pastorat. Il y a séjourné pendant 3 ans à Éphèse et il a essayé d'enseigner les Éphésiens. L'église d'Éphèse a été une église qui avançait, qui était exemplaire. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit? Il a dit, écrit à l'ange de l'Éternel d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Ici, les chandeliers signifient l'église. Alors, si vous ne recevez pas mon avertissement, je vais changer la place de chandelier. À ce moment-là, il n'y aura plus de communication entre moi et vous. Alors, c'est le dernier avertissement du Saint-Esprit qui a été donné à Éphèse. Je connais tes œuvres. Voilà, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. La Bible dit à plusieurs fois il ne faut pas critiquer les autres membres de l'Église. Nous avons été rachetés par le sang de Dieu et il nous a pardonné, il nous a rachetés, il a pardonné nos péchés. Alors, si nous croyons en cela, et nous ne pouvons pas être condamnés par les autres. Mais si nous condamnons ceux qui ont été rachetés par Dieu, nous condamnons Jésus, nous tuons ainsi Jésus qui les a sauvés. Donc, il faut jamais critiquer les autres. Il faut, par contre, encourager les faibles pour les aider, mais il ne faut pas les critiquer. Quelqu'un parle tout le temps des faiblesses des autres. Mais si nous avons des faiblesses, nous pouvons nous repentir. Ensuite, nous pouvons être pardonnés par Jésus. Il est dit dans Romains chapitre 8. À partir du verset 30. Qui pourra les condamner? Alors, qui pourra condamner ceux qui ont été justifiés par Dieu? Comment pourrons-nous condamner, critiquer ceux qui ont été pardonnés, sauvés par Dieu? Est-ce que vous êtes ange, vous êtes roi? Alors, même les anges, même les rois ne peuvent pas les condamner. Mais si nous dépendons de notre propre justice, comme les Nicolaïtes, alors, par exemple, si quelqu'un est tombé en tentation, si on tombe en tentation, et c'est parce que nous sommes intelligents, alors. Alors, si quelqu'un a une vertu, alors, il devient orgueilleux et il commence à critiquer les autres. Alors, nous pouvons être séduits par les Nicolaïtes. Alors, à ce moment-là, nous ne pouvons que chuter au niveau de la foi. Les Nicolaïtes, eux, en fait, ils veulent se vanter des choses visibles. Mais il est dit, « Je connais tes œuvres, ton travail et sa persévérance. » Et tu le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Alors, je connais très bien votre vertu. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Alors, qu'est-ce que l'amour? Alors, qu'est-ce que c'est l'amour? Alors, qu'est-ce que c'est le premier amour? Avant que nous croyions en Jésus, alors je pense qu'il y a une différence entre la méthode de ma méthode de croire en Jésus et celle des autres. Alors les autres, eux, en fait, ils ne manquent de rien, ils sont riches, ils ont une maison, et là, ils ont une bonne personnalité, etc., etc. Ils sont irréprochables, alors ils vivent dans un environnement favorable, et dans cet environnement favorable, ils ont pu croire en Jésus, mais moi, j'étais différent d'eux parce que j'étais vraiment dans une pauvreté extrême. Ma vie était très dure, mais à ce moment-là, j'ai entendu parler de l'Évangile. Alors j'ai dit à Dieu, je vais croire en Jésus même si je suis pauvre, même si j'ai pas d'argent, même si je ne suis pas été éduqué, je vais croire en Jésus, je n'aime que Jésus, je serai fidèle à lui toute ma vie et je serai fidèle à l'Église. C'était mon commencement, le commencement de ma vie spirituelle. Alors j'ai adopté cette attitude et je la garde jusqu'à présent. Alors, je sais bien pourquoi je dois aimer Dieu. Alors, j'ai aimé Dieu et j'ai fait une confession à lui. Lorsque vous vous êtes converti, lorsque vous avez reçu le baptême, vous avez dit, je t'aimerai toute ma vie, je vivrai pour toi. Alors, même si je n'ai pas d'argent, même si je dois être persécuté, je t'aimerai jusqu'au bout. C'était votre confession de la foi. Mais avec le temps, il y a beaucoup qui tombent en tentation en disant, alors j'ai pas d'argent, alors je ne prospère pas, etc., etc. Lors de la cérémonie de mariage, on demande aux époux, est-ce que vous aimez votre mari, est-ce que vous aimez votre femme? Mais en fait, après le mariage, ils changent, ils se disputent. Ensuite, la famille s'effondre. C'est ainsi qu'ils ont perdu leur premier amour. Alors, si on perd le premier amour, on ne peut que s'effondrer. Alors, au début, on a pleuré devant Dieu et on a bien servi l'Église. Mais avec le temps, on change, on ne s'intéresse plus aux affaires de l'Église, on n'aime plus l'Église. Il y a beaucoup qui agissent d'une telle manière parce qu'ils ont perdu leur premier amour. Après le mariage, on fait la confession d'amour. Alors, il faut que cette attitude se maintienne. Alors là, l'attitude qu'on avait adoptée lors du baptême doit être maintenue jusqu'au bout. Alors, souviens-toi donc d'où tu es tombé, parce qu'on a mal commencé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi pour écarter ton chandelier de sa place. Alors, qu'est-ce que c'est la repentance? La repentance, c'est quelque chose de très amer. Si vous avez fait déjà la repentance, vous connaîtrez déjà ce que c'est la repentance. Vous dites merci Dieu parce que tu m'as pardonné. Mais en fait, ce n'est pas tout. Lors de la repentance, on fait des expériences très amères et dures. Alors, à travers l'expérience de la repentance, on reçoit le Saint-Esprit. Ensuite, on est devenu croyant. Et à partir de ce moment-là, on commence à écouter la voix du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de voix dans ce monde. Il y a beaucoup de voix dans le monde. Mais il est pas correct de dire que tous les sermons sont la parole de Dieu. L'Éternel n'est pas le sauveur qui peut sauver les hommes. Mais la vérité et la grâce nous sauvent. La Bible dit la différence entre la loi et la vérité. Celui qui reçoit le Saint-Esprit a écrit la Bible. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ont écrit la Bible avec l'inspiration venant de Dieu. Alors, quelle est la parole de la Bible, donc? Il y a beaucoup qui n'ont pas compris la parole de Jésus. En fait, Jésus leur a dit « Mangez de ma chair, vivez de mon sang ». Alors, ils ont tous quitté Jésus parce qu'ils n'ont rien compris. C'est ce qu'il dit dans Jean. Alors, les disciples qui restaient ont demandé alors Jésus leur a demandé, alors vous allez vous quitter aussi. Alors les disciples disaient, il y a les paroles de vie éternelle, comment je pourrais te quitter? Il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 6, 63, ceux qui se vivifient, c'est l'esprit, non pas la chair. Mais si on a beaucoup de choses charnelles, même si on a beaucoup de vertus au niveau charnel, on ne peut pas être félicité dans les cieux, même si on peut être félicité dans le monde. Voilà, donc, ce qui vivifie, c'est l'esprit, mais la chair ne sert de rien. C'est ma parole qui est esprit et vie. Le Saint-Esprit est venu dans le monde. Dans Jean chapitre 16, si le Saint-Esprit vient, il ne parlera pas de par lui-même. Mais il va vous faire comprendre mes paroles et il va vous manifester ma gloire. Alors, l'action du Saint-Esprit doit être comprise par nous. Alors, le Saint-Esprit, lui, il transmet seulement les paroles de Jésus qui sont spirituelles. Dans Jean chapitre 1, verset 1, cette parole est Dieu. Cette parole est spirituelle, cette parole est esprit. Alors le Saint-Esprit est celui qui transporte les paroles de Jésus à nous. Donc, seul par le Saint-Esprit, on peut écouter les paroles de Dieu. Alors Jésus a agi à travers le Saint-Esprit et il a dépendu de la parole de Dieu pour enseigner par le Saint-Esprit. Voilà, il faut que nous fassions tout par le Saint-Esprit. Lorsque je prêche le sermon sur ce pupitre, je ne dépends pas de mes propres vertus, de ma propre justice. Si vous avez beaucoup de choses, alors vous pouvez enseigner, vous pouvez prêcher le sermon. Faut faire pleurer les membres de l'Église pour les faire rire. Il faut que nous soyons capables d'écouter la voix du Saint-Esprit. Nous avons les oreilles, alors qu'il nous permet d'écouter. La voix d'homme est appelée phoné en grec. Phoné signifie l'action de transporter. Alors, par les paroles, on peut transporter notre connaissance aux autres, mais la parole de Dieu que nous écoutons, c'est logos. Alors, vous écoutez le sermon, c'est ainsi que vous pouvez servir Dieu, et alors vous pouvez écouter la parole de Dieu qui est Dieu. C'est ainsi qu'on peut servir Dieu. À ce moment-là, le Saint-Esprit agit lorsqu'il a la parole de Dieu, logos. Alors, le Saint-Esprit parle à nous. Il faut que nous écoutions cette voix. Et est-ce qu'on peut être capable d'écouter Logos ou bien est-ce qu'on peut écouter seulement Phoné? Alors, écoutez, si vous avez les oreilles qui vous écoutent, si vous permettez d'écouter la voix du Saint-Esprit. Alors, au vainqueur qui surmonte sa propre justice et qui appartient à la justice de Dieu, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Il est dans la Genèse chapitre 3 au jardin d'Éden. Alors Jésus, Dieu a dit à Adam, il ne faut pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais Adam en a mangé, c'est pourquoi il est mort. Et tous ses descendants sont devenus enfants de l'enfer. Mais Dieu l'a chassé du jardin d'Éden pour qu'il ne mange pas les fruits de l'arbre de vie. Alors, on peut s'interroger sur les fruits de l'arbre de vie. Mais si nous avons aimé l'Église, alors si on a fait la confession d'amour à Dieu le Père, et si on la maintient, on deviendra colonne de l'Église, et le place de chandelier ne sera pas changé, et à ce moment-là, on pourra manger les fruits de l'arbre de vie. Il faut que nous ayons un espoir, lorsque nous menons la vie de la foi. Quel est le résultat de la vie de notre foi? Moi, j'ai cru en Jésus jusqu'à présent, mais qu'est-ce que j'ai obtenu? Parce que je ne prospère pas et je suis tombé malade. Mais quelle est votre espérance? Cette espérance se trouve sur cette terre ou bien dans les cieux? Lors de notre conviction, nous avons abandonné tout ce qui a été utile à notre chair. Notre espérance se trouve dans les cieux, dans l'arbre de vie. Il faut que nous soyons fidèles jusqu'au bout. Alors, si nous mourons, nous entrerons dans le paradis, mais païens resteront dans l'Hadès. Nous entrerons dans le paradis et lors de l'avènement de Jésus, nous serons ressuscités pour entrer dans le royaume des cieux où se trouve Dieu. À ce moment-là, nous aurons un trône céleste et nous pourrons régner. Alors, nous serons traités comme des rois et à ce moment-là, nous pourrons obtenir les fruits de l'arbre de vie. Alors, c'est ça notre espérance. Alors, l'apôtre Paul a dit, « Moi, j'ai abandonné tout ce qui était utile à ma chair. Alors, moi, je vise seulement la résurrection parce que c'est la résurrection qui est mon objectif. Je n'ai pas encore obtenu, mais je vise à l'obtenir. » Quelle est votre espérance? Même si vous êtes diacre, mais si vous n'avez pas d'espérance, vous allez périr comme les Nicolaïtes. Et alors, vous allez tenter le Saint-Esprit. Il faut que nous maintenions jusqu'au bout le premier amour qu'on avait eu lors de la conviction. Quoi qu'il arrive, il faut que nous le maintenions jusqu'au bout. À ce moment-là, nous serons vainqueurs et nous pourrons manger des fruits de l'arbre de vie dans le royaume des cieux. C'est cela notre espérance. Donc, posséder l'espérance, posséder l'espoir en la résurrection, en la vie éternelle. Et à ce moment-là, vous pouvez hériter du royaume des cieux. Et c'est cela notre espérance. Prenez le point, mon âme possède l'espérance céleste. Mon âme possède l'espérance céleste. Mon âme possède l'espérance céleste. Et mon âme aime le Seigneur, aime l'Église. Puisque le Seigneur aime l'Église, il faut que nous l'aimions aussi. Qu'est-ce que l'Église? L'Église, c'est le rassemblement, c'est un rassemblement. Il est dit dans les Actes des Apôtres, au premier jour de la semaine, on se réunit à l'Église pour rompre du pain. Pour qu'on rompe du pain, il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, pour annoncer la mort de Jésus. Alors, il ne faut pas manger et boire. En étant dénué d'une connaissance nécessaire. Alors, si on le fait, on mange et voit nos propres péchés. À ce moment-là, nous devons être responsables de ces péchés. Et nous péchons contre le corps de Jésus. C'est ainsi qu'on tue encore Jésus. Mes bien-aimés, il faut que nous écoutions la voix du Saint-Esprit qui s'adresse aux églises. Alors moi, je vous transmets la parole venant du Saint-Esprit. Alors, il faut que nous écoutions donc la voix du Saint-Esprit. Et à travers cette parole-là, on peut être justifié. Alors, moi, je suis quelqu'un de faible. Mais moi, il faut que nous dépendions seulement du Saint-Esprit. Mon âme écoute la parole du Saint-Esprit. Et alors, il ne faut pas le dire d'une manière non concentrée. Mon âme écoute la voix du Saint-Esprit. Levez-vous. Déterminez si vous voulez vivre d'une telle manière. Alors, à ce moment-là, il faut restaurer notre premier amour. Pour cela, il faut se repentir. Il faut se repentir. Lors de notre conversion, on s'est repenti et on avait abandonné tout ce qui était nécessaire et utile à notre chair. Il faut qu'on se repente d'une telle manière, de la même manière. Prions.